Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Ma femme d'aujourd'hui est une personne avec beaucoup de foi et de sérénité intérieure. Et elle l'explique très bien, cela n'épargne pas les coups durs de la vie, mais permet de les absorber et les accepter.
Média. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Madame Lhlo, bonjour, merci beaucoup d'être avec moi. Comment vas-tu, Myriam ?
Très bien, et toi, Yasmine ?
Comment vont les hommes de ta vie ?
Écoute, ils vont très très bien. Jade et Yasmine te passent le bonjour.
Alors Myriam, toutes les deux, on se connaît beaucoup parce qu'on a fait pas mal d'émissions ensemble, notamment dans On se dit tout, sur Médien aussi, sur l'antenne de Médien, les différents rendez-vous que j'ai pu animer. Mais là, c'est la femme et non pas la consultante coach que je reçois, c'est la femme. Pour toi, Myriam Lhlo, ça veut dire quoi être une femme aujourd'hui ?
Être une femme aujourd'hui dans notre société, c'est le, moi je dirais c'est vraiment une phrase, c'est le courage d'être soi-même, à la fois une femme indépendante, autonome, une maman accomplie, et d'être soi-même à chaque fois, on va dire à chaque casquette de sa vie. Mmh. Voilà.
Alors quand tu dis une maman accomplie, pour celles qui ont fait le choix de se marier, d'avoir des enfants.
D'avoir des enfants, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Exactement.
Être une femme divorcée aussi accomplie.
Célibataire accomplie. Parce et que tu sais pourquoi, Myriam, j'insiste ? Parce qu'on me fait souvent la remarque, on me dit, tu reçois très souvent des femmes mariées, mamans, et il ne faut pas que ton émission véhicule l'image de la femme marocaine comme étant celle qui est mariée. Mais en fait, je précise une chose, c'est que mon émission n'est pas là pour véhiculer aucune image. Mon émission est
bien
là pour être
sûr.
Une plateforme de discussion avec différentes femmes marocaines. Voilà.
Et c'est pour ça que je te dis, finalement, Yasmine, ce qui est très important, c'est que chaque femme a le droit d'être ce qu'elle veut, d'être elle-même. Aujourd'hui, moi, en tant que femme, j'ai 40 ans, je les assume, j'ai décidé d'avoir des enfants sur le tard, je les assume. J'ai décidé de divorcer, je l'assume. De travailler, je l'assume, tu vois. Donc finalement, mes choix sont mes choix. Ils ne sont ni transférables, ni recommandables. Si ça convient à quelqu'un d'être une femme au foyer, de faire la confiture toute la journée et qu'elle est heureuse comme ça, ben, tant mieux pour elle.
Soit, exactement. Voilà.
Donc chacune d'entre nous a le droit d'être heureuse à sa façon.
Mais est-ce qu'on nous permet
Mais
est-ce qu'on nous permet cette liberté de choix ? C'est-à-dire, est-ce qu'on grandit petite fille, adolescente, jeune fille, sur cette liberté de choix. Tu as grandi comment, toi, Myriam, justement ?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux parents extraordinaires, dont un a quitté ce monde trop tôt. Mon papa, Allah yarhamo, est décédé quand j'avais 8 ans, d'accord ?
Okay.
Et il est tombé malade quand j'avais 5 ans. Ce qui fait que j'ai le souvenir d'un foyer heureux, mais d'un foyer où très très tôt, en tant que fille unique, papa avait des enfants d'un premier mariage, mais j'ai grandi dans un foyer où j'étais fille unique. Et ce qui fait que, comment te dire, j'ai dû compter sur moi très tôt. Mes parents avaient une vie active bien remplie. Maman suivait papa dans ses déplacements, dans ses rendez-vous d'affaires, etc., etc. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, ministrine. Donc on comptait sur nous. Mais très tôt, en tant que fille unique, j'ai dû apprendre une certaine autonomie et une forme de responsabilité.
Et donc, c'est ça, tu penses, qui t'a donné cette liberté de choix une fois adulte ?
Moi, je pense que c'est aussi le fait que j'ai été élevée par la force des choses, après le décès de papa. J'ai été élevée par une maman seule.
Une femme
maman
seule.
Ouais. Qui, une phrase m'a toujours marquée chez elle. Et d'ailleurs, je m'en suis rappelée hier. Je me suis dit, c'est dingue, tu t'en rappelles là. Elle m'a dit, « Fi al-mara ou fi al-rajl ». Je suis à la fois l'homme et la femme. Et c'est une phrase qui a... C'est fou. Mais en fait, j'ai eu un flashback hier soir. Je me suis dit, c'est fou, ma mère répétait ça souvent quand j'étais enfant. Et peut-être que... Peut-être, tu sais, comme tout finalement, c'est nos parents qui nous éduquent. C'est aussi l'école, c'est aussi nos amis. Mais nos parents, c'est le premier noyau d'éducation.
Tout à fait.
Donc, il est certain qu'en les regardant, qu'en les observant, on imite beaucoup de choses. Qu'on le veuille ou pas. Et ce qui fait, j'ai vu une maman très jeune compter sur elle-même, quitter le rôle simple de femme au foyer et d'épouse qui suivait son mari, à femme qui assume la responsabilité d'un foyer, d'une maison, de l'éducation d'une fille, de rentrée d'argent, etc., qui a dû compter sur elle-même.
Elle a dû travailler du jour au lendemain ?
Exactement. Elle a créé une entreprise en fait parce qu'elle n'a jamais été salariée. Et puis elle a dû créer une entreprise dans la couture traditionnelle. Elle aimait faire les choses. Elle était très manuelle. Mmh. Elle s'est dit bon, je dois gagner ma vie. Je dois élever une fille. Comment faire? Et elle a créé une entreprise. Et c'est vrai que elle en a créé après 2 ou 3. C'est resté au stade d'une petite entreprise. Mais en tout cas, ça nous a permis de vivre pendant quelques années.
Mmh. Et elle n'a jamais pensé à refaire sa vie parce que quand elle te dit « fille al-mara ou fille al-rajl », c'est-à-dire elle vivait pleinement pour sa fille.
Alors justement, c'est ça ce qui est intéressant. Je pense que dans la société de l'époque, parce que c'est dans les années 80 finalement,
90, exact.
Elle s'est retrouvée veuve jeune. Et dans ces années 80-là, je pense que il y a eu des cycles, je pense, dans notre société. Et les années, les décennies ne se ressemblaient pas. Si aujourd'hui, sur les ondes, je peux m'exprimer librement avec la fierté d'avoir fait mon parcours, etc., je pense qu'il y a eu quand même à l'époque quelques tabous et peut-être un choix qui a été fait délibérément, de ne pas refaire sa vie. Je me rappelle dans mes souvenirs que quelqu'un, si je raconte cette anecdote, c'est parce qu'elle m'avait marquée. Et vraiment, je la partage. Il y avait un cousin, on va dire au deuxième degré, avec sa maman qui a essayé d'épouser maman. Mmh. Quand je dis essayer, pourquoi ? Parce que je les ai dissuadés vite fait. J'en suis pas très fière. Mais on va dire que jeune enfant, peut-être j'avais 10 ans à l'époque ou 11 ans, je ne voulais pas que ma mère se remarie. Je raisonnais pas avec la tête évidemment que j'ai aujourd'hui, je raisonnais avec la tête d'un enfant qui a vu son père partir et qui n'a pas voulu justement que sa mère parte ou soit la femme d'un autre homme justement. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai raisonné avec la tête d'un enfant et la maman elle n'a pas dû être très convaincue par cet
homme.
Parce que je pense que c'est quelqu'un qui écoute sa fille et qui a eu à cœur mon bonheur, je pense, pendant très longtemps. Mm. Mais je pense que si elle avait vraiment voulu se remarier, elle l'aurait fait. Maintenant, c'est des sociétés particulières à l'époque. Et puis, il y a cette éducation, les femmes sortaient moins. Donc, peut-être que c'était plus difficile de rencontrer quelqu'un.
Alors, une question justement. On entend beaucoup en notre société aussi de ce message de « refais ta vie, un jour ta fille et tes enfants vont partir et tu vas rester toute seule ». Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te sens en quelque sorte responsable de ta maman parce qu'elle n'a pas refait sa vie ?
Oui. Alors, pour être honnête, oui. C'est-à-dire que j'ai fait aussi des choix dans ma vie. Tu sais probablement, hein, si tu te rappelles de nos discussions quand on faisait des émissions sur Média 1 TV, que j'ai étudié en France. Je suis partie à l'âge de 17 ans en France. Mmh. J'ai fait mes classes préparatoires, mon école de commerce là-bas. Et j'avais décroché un super CDI à l'époque, dans une grande entreprise française, dans le secteur que je voulais, etc. Et je devais faire même un accord d'échange en Irlande. J'ai renoncé à ces deux projets-là parce que ma mère était tombée malade. À cette période-là où ces choix-là se sont présentés à moi.
D'accord.
Et je suis rentrée au Maroc sans rien. C'est-à-dire sans rien. Bon, j'ai eu mon diplôme. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas continué et l'échange à l'international et la carrière en France que je voulais faire. Je suis rentrée au Maroc. Donc, je ne sais pas si... Il y a plusieurs enjeux. Je suis fille unique, comme je t'ai dit. Mmh. Donc, être fille unique, pour tous les enfants uniques qui nous écoutent, il y en a plein qui vont s'identifier au fait que, voilà, on sent une certaine responsabilité envers un ou ses deux parents, surtout lorsqu'ils vieillissent, lorsqu'ils tombent malades, etc. Et deuxièmement, c'est vrai, j'ai eu pendant quelques temps cette culpabilité de me dire, bah, elle n'a pas quand même refait sa vie pour moi. Donc, je lui dois bien ça, quelque part. C'est-à-dire, je dois être présente à elle quand elle en a besoin. Mais c'est vrai, du coup, on fait moins ces choix pour soi. On les fait en prenant en considération d'autres paramètres.
Ouais. Est-ce que c'est ce qui a motivé, justement, ton premier divorce ?
Non. Franchement, non, à moins que ce soit inconscient. Il faudrait que je demande à ma thérapeute.
Parce que tu étais au Canada à ce moment-là.
Là, Alors non, j'ai fait effectivement avec mon ex-mari un voyage au Canada. On a repris nos études ensemble, si tu veux, parce que mon ex-mari était passionné par le premier en tout cas, était passionné par la psychologie, la PNL et l'hypnose. Et c'est vrai que il m'a dit tiens, on va aller au Canada s'installer quelque temps. Mais quelques temps, parce que lui aussi avait ses obligations familiales. Donc on est resté moins d'un an, on est resté quelques mois. On est revenu au Maroc parce qu'on avait déjà des vies actives entamées.
D'accord.
Ça, on l'avait fait une fois qu'on avait quelques années dans la vie active. Maintenant, c'est vrai qu'il m'avait demandé de repartir avec lui une autre fois, mais pour nous installer définitivement. Et là, je lui ai dit, je me rappelle très bien, je peux pas laisser ma mère derrière moi. C'est-à-dire que, est-ce que c'était le déclencheur du divorce? Non, il y avait d'autres choses, hein, pour être honnête.
Bien sûr.
Mais c'est sûr que, en tant que femme, je n'ai pas suivi à la fois des choses professionnelles que je voulais réaliser à l'âge de 24 ans parce que la maman était tombée malade. Et c'est vrai, je n'ai pas suivi un mari parce que je ne pouvais pas la laisser derrière moi à 7 heures de vol. Donc, il est certain, en tout cas, que je me sens responsable.
Oui. Et c'est presque, j'ai envie de dire, je ne suis pas là pour juger, mais c'est presque normal. Vous avez vécu en duo toutes les deux. Et que toutes les deux.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes encore extrêmement fusionnelle.
Alors, oui, bien sûr. Alors, il faut dire que ma maman vit avec moi aujourd'hui. C'est une grand-mère parce que j'ai eu deux petits garçons. Jade a bientôt 4 ans et Yassine a 2 ans. Il a fêté ses 2 ans ce mois. Et c'est une grand-mère qui est très heureuse aujourd'hui. Bon, c'est sûr que elle me rend aussi beaucoup service parce que avoir une grand-mère aimante qui s'occupe d'enfants en bas âge, qui est présente, c'est quand même, tu sais.
C'est réconfortant parce que tu sors l'esprit tranquille.
Évidemment. Déjà, je sors l'esprit tranquille. Un de mes garçons est à la crèche, l'autre n'est pas encore. Mais c'est comment te dire? Tu vois, typiquement, même si je suis moderne dans mes pensées, dans ma façon de régir ma vie ou d'être professionnelle ou d'être vraiment une féministe, pas dans le sens extrême, mais de penser que chaque femme a le droit de faire ses choix, etc., je reste très attachée à des valeurs familiales. Je reste très conservatrice par rapport au fait de devoir prendre soin de ses parents et d'être présent à leur côté. Et de les voir peut-être même tous les jours. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement.
C'est pas parce qu'on est moderne, c'est pas parce qu'on a vécu...
Qu'on va voir ses parents deux fois par an.
Qu'on appelle ses parents au téléphone une fois par mois et qu'on se dit, il y a le déjeuner du vendredi. Bien sûr, chacun ses circonstances. On peut habiter loin de ses parents, dans d'autres villes, etc. Et ça, c'est normal. Mais quand ils habitent la même ville ou à quelques pas ou dans le même quartier, etc., je pense que la force aussi de nos familles, c'est de rester proche des anciens parce qu'ils sont source de sagesse, parce qu'ils sont source d'amour. Et parce que, comment te dire, il y a même dans d'autres sociétés, tu sais, c'est honorer la mémoire de nos, je sais pas, de ceux qui nous ont mis au monde, tout simplement.
Tout à fait, absolument. Il n'y a pas plus forte connexion, justement, sur Terre. Alors, Mariam, justement, maman de deux garçons. C'est une expérience assez particulière puisque tu as perdu ton papa très jeune, ouais. Le premier homme de ta vie, tu divorces de lui, le papa de tes enfants, tu divorces de lui aussi.
De lui aussi, effectivement.
Exactement. Effectivement. Et là, tu es en charge de deux garçons.
Alors, c'est marrant parce que la vie nous joue des tours. C'est très marrant parce que je me rappelle à l'examen de... Je sais pas si j'avais toujours voulu avoir des garçons, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir deux garçons. Qu'est-ce que j'aurais été en ayant une fille, je ne sais pas. Mais c'est très intéressant parce que je me rappelle la tête de mon médecin, de ma gynécologue, quand elle a fait la deuxième échographie pour déterminer le sexe du bébé. Elle me disait, ah, j'espère que ce sera une fille parce que tu vois, t'as déjà un garçon et c'est ma gynécologue qui avait des rêves pour moi. Tiens, écoute, ce que Dieu voudra, parce que je suis extrêmement croyante, ça sera le choix juste. C'est bon. Elle me dit non, non, mais c'est quand même le choix des rois et tout, tu vois, elle négocie avec moi. Et quand elle a vu que c'était un garçon, elle était déçue. Mmh. Je me rappelle toujours de sa tête, elle m'a fait rire. Je lui disais, mais non, c'est moi qui devais la rassurer. Je lui ai dit, écoute, ça me va très bien. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, effectivement, ça me va très bien. Est-ce que parce que le fait que j'ai manqué d'hommes aussi dans mon enfance, ouais. C'est important. Tu sais, quand tu grandis dans un foyer où il n'y a pas de frère, il n'y a pas de père, une grande figure paternaliste que j'adore et qui était mon grand-père vivait à Fès. Et je le voyais dans les vacances scolaires, donc je ne pouvais pas le voir tout le temps. Un autre grand-oncle, effectivement, vivait un peu loin, aux États-Unis. Donc, si tu veux, les figures masculines, attachantes, affectueuses, tout ça n'était pas à côté. Je pense qu'effectivement que Dieu est grand, alhamdoulilah, et la gratitude aussi d'avoir surmonté un certain nombre d'épreuves dans ma vie. La spiritualité, je pense, m'a beaucoup aidée, mon attachement à Dieu. Tout est à sa place, tu vois. Il y a quelque part, tu sais, même dans les séparations que j'ai vécues, peut-être un sens. Il y a ce verset coranique qui dit « Bismillah ar-Rahim wa la anskarou shay'an wa khaylun lakum sadaqallahu al-'adim ». C'est-à-dire que la plus grande vertu, je pense, que l'homme doit développer, c'est l'acceptation. L'acceptation qu'un père puisse partir jeune, l'acceptation de devoir compter sur soi-même très jeune, l'acceptation de divorcer deux fois ou plus. L'acceptation que rien n'est éternel, tu vois. Vraiment, cette acceptation. C'est dur sur le moment.
Oui.
Je te dis pas que l'acceptation, c'est un exercice que j'ai réussi à chaque fois. Je l'ai réussi après être passée par la tristesse, la colère, et pourquoi ça m'arrive à moi, et c'est pas juste, et machin, et sentiment d'injustice. Mais au final, l'acceptation, tu te dis, mais voilà, c'est ma vie. Je peux pas la changer.
Ouais. Elle est comme elle est.
Elle est comme elle est, exactement. Ouais.
Et ta maman dans tout ça, face à justement cette vie amoureuse un peu qui peut sembler tumultueuse, elle a quelle position ?
Bizarrement, elle m'a toujours soutenue. Mmh. Elle n'a pas toujours compris mes choix, pour être très honnête. Ni mes choix de me marier, ni mes choix de divorcer, elle ne les a pas compris, des fois du début à la fin. Mais au final, elle m'a dit « fais ce qui te semble correct ». C'est-à-dire que elle a pu me juger sur d'autres choses, elle a pu me faire part de son désaccord sur autre chose, mais elle m'a toujours laissé prendre mes décisions. Et franchement, vraiment dès mon jeune âge, je me rappelle de cette mère qui exprime ses avis, mais qui me laisse prendre des décisions. Tu vois, quand j'ai décidé de quitter le Maroc à 17 ans pour partir à Paris, faire mes études, elle me disait, mais comment tu vas t'en sortir ? T'as toujours, on va dire, vécu dans une bulle. Je lui ai dit, non, j'ai vraiment envie de partir à l'aventure. Comme j'étais mineure, j'étais dans un foyer de jeunes filles la première année, jusqu'à ma majorité, etc. etc. Mais elle me dit, fais tes choix. Et je pense que c'est ça qui m'a incité à prendre des risques, tu vois, dans ma vie.
Même par rapport à l'entrepreneuriat.
Oui, exactement, parce que je me dis qu'au final, j'assume mes responsabilités. Mmh. C'est-à-dire, je fais un bon choix, je vais l'assumer, je fais un mauvais choix, je vais l'assumer. Et je vais être seule à l'assumer, face à la société, face à moi-même, face à Dieu, face à mes amis, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'appartient. Les choix m'appartiennent. Et oui, quand j'ai décidé, tu sais, de me lancer dans l'entrepreneuriat, sa première réaction, c'est « Benji, t'es folle. T'es folle dans le sens où tu vas quitter un salaire sûr, on va dire sûr, fixe,
confortable,
une entreprise connue, etc. pour aller lancer je ne sais quoi. Et je ne sais quoi, c'était un cabinet de ressources humaines, de psychologie et tout ça. Mais figure-toi que les 6 premiers mois, je le lançais de ma chambre à coucher, mon cabinet. C'est-à-dire que j'avais une boîte postale. Bien évidemment, j'ai fait une reconversion de métier, du marketing, la communication aux ressources humaines, tu vois, au conseil. Mais ce qui est génial, c'est que elle m'observait en ne comprenant pas comment on peut quitter un job, un lieu, un statut, etc. Et travailler de sa chambre à coucher, en tout cas la première année, et prendre des risques, c'est vrai, des fois non planifiés, j'avouerai, des risques non toujours mesurés. Tu sais, j'ai créé mon entreprise sans business plan. je le recommande pas forcément.
Oui, absolument. Mais... je sais que tu ne le recommandes pas parce qu'on a fait pas mal d'émissions sur ça. Donc là, en fait, on perd notre crédibilité, Mérim. Non, je rigole. Non, mais c'est
non,
vrai.
Non. Ouais. C'est très important. Ah. C'est très important en tant que femme, et j'insiste beaucoup sur ça, en tant qu'être humain, de ne pas être donneur de leçons. Mm. Tu sais, il y a quelque chose qui m'irrite au plus profond de moi, c'est les donneurs de leçons. Ceux qui savent tout sur tout, qui moralisent tout, qui te disent ça c'est bien, ça c'est mal. Personne ne vit notre vie à notre place. Personne ne connaît les vraies motivations de nos choix, ni les vraies situations qu'on traverse qui nous emmènent vers ces choix-là. Donc les gens jugent vraiment de l'extérieur et sont moralisateurs d'après une carte du monde qui leur appartient. Donc moi, c'est vrai, quand j'ai créé mon entreprise sans business plan, c'est que j'ai voulu tester mes limites, c'est que j'ai voulu partir à l'aventure, je voulais me prouver quelque chose à moi-même. Il y en a qui ont réussi comme ça, tant mieux pour eux. Il y en a qui réussissent avec des business plans, tant mieux pour eux, tu vois.
Ouais,
il n'y a
ouais,
pas
ouais.
de recette magique.
Exact. Alors Mariam, justement, tes deux garçons aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué pour toi d'être mère célibataire? Est-ce que, je vais te poser une question extrêmement intime, est-ce que tu te vois refaire ta vie avec quelqu'un d'autre?
Tu connais notre constitution et nos lois.
Oui, absolument, c'est ça.
Absolument.
Si tu refais ta vie, tu perds ton gosse, tu perds tes gosses.
Alors, je vais en parler.
Mais alors, justement, si la loi te permettait de refaire ta vie et de garder tes enfants, est-ce que tu le ferais?
Peut-être plus facilement. Et je le dis en tant que femme marocaine, c'est vrai que je suis libérée dans ma tête, mais il y a quand même des lois.
Libérée, délivrée.
Non, pour répondre à la première partie de ta question, est-ce que c'est facile? Non.
Non.
Après la séparation avec le père de mes enfants, je t'avoue que j'ai pleuré très très longtemps. Je suis passée par une phase de déprime. Je ne voulais pas. En fait, j'ai beaucoup plus été triste pour mes enfants que pour moi-même.
D'accord.
Étant donné que j'ai grandi, enfin, j'ai été éduquée par la force des choses. Papa était malade, puis il est parti, puis il est mort, etc. Par une mère seule, j'ai vu la responsabilité. J'allais pas te dire le fardeau, mais presque le dos de ma mère s'est courbé par le poids des responsabilités. Et quelque part, j'avais pas du tout envie de reproduire ce schéma, mais surtout pas. Et c'est-à-dire que ma plus grande peur, justement, pour eux et pour moi, c'est-à-dire la plus grande peur, c'est qu'ils voient une mère peut-être un peu triste, un peu fatiguée par la vie, un peu déprimée, un peu dépassée aussi par les événements. Parce que c'est pas facile d'être un parent célibataire, ni aujourd'hui, ni hier. Parce qu'il y a la responsabilité de la maison et la responsabilité du travail, parce qu'il faut être exemplaire, parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même, parce que limite, j'avais l'impression que je devais... Et j'ai toujours cette impression-là que je travaille, que je devais leur compenser à la fois la présence du père et de la mère. Leur père est présent.
Et qu'on fait comme Raoul.
Oui, et je ne veux surtout pas, et c'est marrant parce que ça m'est venu hier dans la tête, et je ne veux pas reproduire le même modèle. C'est-à-dire, je veux.
Bon, la différence, c'est que leur papa est en vie, alhamdoulilah.
Là, alhamdoulilah, oui, et que Dieu le garde en vie et que Dieu le garde pour eux. Et c'est un papa qui joue son rôle de papa pleinement. Et ça, heureusement, il est très présent. Il demande à voir ses enfants et j'espère que ça le restera pour toujours, évidemment. Mais c'est un père qui aime ses enfants. Et ça, c'est très important parce que pour moi, déjà, ça m'enlève une responsabilité de devoir prouver deux fois l'amour. Tu vois.
Exactement.
Je te disais que j'étais beaucoup plus triste pour eux parce que j'avais peur qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti enfant, c'est-à-dire l'absence d'un parent.
Ouais. En fait, tu as revécu en quelque sorte ton propre deuil avec ce divorce-là. C'est pour ça que tu as beaucoup pleuré.
Exactement. Et c'était vraiment une souffrance qui dure par moments jusqu'à aujourd'hui où je me dis, même femme qui assume ses choix, où je me dis, j'aurais quand même aimé que ce mariage reste, ne serait-ce que pour les enfants. Mais si on était heureux,
bien sûr, évidemment.
Et si on le voulait tous les deux, parce qu'un mariage ne peut rester. Enfin, ça a l'air évident, mais un mariage ne doit rester que s'il est voulu par les deux partenaires.
Par les deux partenaires.
Pas par un seul, parce que sinon c'est un mariage de souffrance, etc. Mais pas tout. Mais si je devais faire un choix, réécrire l'histoire de mes enfants, j'aurais beaucoup aimé qu'ils aient leur père et leur mère dans la même maison.
Mariam Lehlo, merci infiniment d'avoir été ma vraie femme d'aujourd'hui.
Merci à toi Yasmine, à bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.